Marc-Olivier Fogiel.
Forcément, sur Europe 1.
Ingrid Betancourt était hier à l'Hôtel de Ville de Paris où étaient réunis des prix Nobel. C'est là qu'elle vous a reçu, Marc-Olivier, pour un entretien où elle dit vraiment tout, elle n'esquive aucun sujet.
Ingrid Betancourt, bonjour.
Bonjour.
Je suis particulièrement heureux de vous rencontrer.
Et moi aussi.
Merci beaucoup d'être là pour Europe 1. Vous rentrez donc d'Amérique du Sud et vous êtes rentrée donc avec un guerrieros des FARC, ex-guerrieros des FARC, repenti aujourd'hui. Le pardon, c'est possible pour vous?
Oui, et plus que possible, il est nécessaire. C'est une nécessité morale de l'âme. Et justement, avant de venir ici, je m'excuse d'être un petit peu en retard.
Il n'y a pas de problème.
Et c'était parce que j'étais avec lui. Et j'étais ravie de le voir là où il est, avec son amour, son Isabelle. Ils sont venus tous les deux ensemble. Et je me disais, mon Dieu, c'est vraiment une histoire qui finit bien.
Mais vous n'avez jamais dit que, même si aujourd'hui il est repenti, c'est des jeunes gens comme lui qui vous maltraitaient dans la jungle colombienne?
Ah oui, ça je sais, j'ai eu cette discussion avec mon fils hier soir. Parce qu'il
vous a dit quoi, Lorenzo?
Lorenzo m'a dit, maman, mais quand même, écoute, ce sont des gens qui ont tué, qui ont fait du mal, pourquoi est-ce qu'ils viendraient ici? Et je lui ai dit, écoute, justement, il aurait pu continuer à faire du mal, il aurait pu continuer à être dans cette vie-là. Et il y a en lui quelque chose qui l'a poussé à prendre le bon chemin et à risquer sa vie pour effacer tout ce qu'il avait avant et libérer quelqu'un.
Puisqu'il a permis d'aider un ex-parlementaire qui a pu prendre la fuite.
Ouais.
Vous rentrez d'Amérique du Sud, vous rentrez de Colombie. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de retourner dans ce pays où aujourd'hui encore votre vie est en danger?
J'ai eu plein d'émotions, c'est vrai. Mais la plus grande émotion, c'est l'émotion du bonheur. Moi, j'étais ravie d'être chez moi. Vraiment.
Vos enfants, ils n'étaient pas inquiets de vous voir repartir là-bas?
Si. J'ai eu une grosse discussion avec Mélanie. Elle ne voulait absolument pas que j'y aille. Et d'ailleurs, je devais aller le jour d'avant pour participer à une marche pour la libération des otages colombiens. Et elle m'a appelée, elle m'a dit, il est hors de question que tu y ailles. Je veux avoir la certitude que tu vas être bien protégée, et elle voulait parler avec les gens de sécurité, etc.
Mais Ingrid Betancourt, il vous arrive aujourd'hui d'être tiraillée entre ce que vous avez envie de faire, votre combat aujourd'hui pour ceux qui sont encore détenus par les FARC dans la jungle, et puis la demande de vos proches, vos enfants, qui ont tellement souffert de vous savoir là-bas?
Écoutez, j'ai pris la décision de ne rien faire qui puisse leur causer des inquiétudes et des angoisses. Je pense qu'ils ont vraiment gagner le droit sur ma vie, dans le sens de me dire, si jamais ils ne veulent pas que je rentre en Colombie, je ne le ferai pas.
Mais en termes de disponibilité, par exemple, j'imagine qu'ils ont envie d'être avec vous le maximum de temps possible, et vous, aujourd'hui, vous êtes partout, ici et là, on va y venir en quelques moments, mais j'imagine qu'ils veulent plus vous partager, plus vous perdre.
Oui, ni eux, ni moi. Moi, je n'ai pas envie de les perdre, mais il y a des choses qui sont, bien sûr, c'est la présence physique, donc je vais beaucoup aux États-Unis pour voir ma fille, je suis beaucoup en France pour être avec mon fils. Maman me suit partout, donc j'essaie ces liens d'amour, de les maintenir le plus intense et proche possible, mais il y a plus que ça, parce qu'il faut reconstruire les relations. C'est pas seulement la présence physique. Il faut être là mentalement et être là d'une façon intelligente, parce que ce ne sont plus des enfants. Moi, je me retrouve avec des adultes qui ont fait des choix de vie, qui ont leur caractère, qui défendent leurs espaces. Par exemple, j'ai un dîner ce soir et je voulais absolument que mon fils m'accompagne. Bon, j'ai dû vraiment me mettre à genoux pour réussir qu'il vienne avec moi.
Et dans cette vie que vous devez réapprendre, et notamment donc cette relation avec vos grands-enfants, qu'est-ce qui est le plus dur dans leur réapprentissage dans la vie?
Alors, je vais vous dire un truc, c'est que quand on a vécu dans la jungle ce que j'ai vécu, tout le reste, tout ce qu'on vit par la suite, n'est que du bonheur. Vous me dites, qu'est-ce qui est le plus difficile? Il n'y a rien de difficile.
Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 6 ans? Écoutez, et donc, vous devez vous réadapter et prendre des cours accélérés.
Je vais vous raconter des trucs pour que pour vous dire pourquoi je réponds comme ça. En ce moment, je dors très peu parce que j'ai pas le temps de dormir. Mais dans la jungle, je faisais ça. On me levait à 3h du matin parce qu'il fallait marcher toute une journée ou 2 jours sans dormir et sans manger, et qu'il fallait dormir dans un trou derrière un arbre. Je l'ai fait pendant presque 7 ans. Donc, dormir sur une chaise dans un avion ou dans un siège, je ne sais où, ou
ça
ne pas dormir,
presque plus confortable.
Ouais, exactement. je ne mange pas, ben, je ne mange pas, je m'en fous. Je ne mange pas pendant quelques heures. J'arrive à la maison, je prends du muesli, un petit peu de yaourt, et ça y est, mon dîner est prêt. Mm-hmm. Et en plus, quel bonheur de pouvoir manger ça. Normalement, je n'ai eu que du riz et des flageolets. Non, pour moi, tout est un bonheur.
Il vous arrive, dans ce bonheur, d'avoir quand même des coups de moins bien, des coups de déprime, des coups de blues?
Oui, parce que je pense que, si vous voulez, il y a une conscience du bonheur, mais il y a aussi un inconscient qui porte le malheur des années vécues, ça c'est évident. Donc oui, j'ai des cauchemars, oui, j'ai de temps en temps... Si on me parle de certaines choses, à certains moments, j'ai les larmes très faciles. Et donc j'essaie d'éviter certains thèmes, parce que je sais que j'ai des émotions qui me prennent. Et même quand je suis toute seule et que je pense à des trucs, ça y est, je commence à pleurer. Ça, c'est un petit peu fatigant.
Et cette période, par exemple, l'approche des fêtes, on vous a beaucoup vu prier, on vous a vu à Lourdes, on vous a vu avec le pape. Cette fois, c'était ce qui vous a, j'imagine, permis de tenir dans la jungle. Vous l'aviez avant d'être détenu par les FARC?
Oui, je l'avais, mais elle était différente. Je pense que j'avais la foi que nous avons beaucoup de catholiques, c'est-à-dire une foi un petit peu de rituel, et de se dire, de toute façon, Dieu est là, je peux faire appel à lui quand j'en ai besoin, mais sinon, je prends ma vie. Et puis, c'est une relation un petit peu utilitaire avec Dieu qu'on a de temps en temps. Donc,
Et maintenant, pour vous?
Non, maintenant, pour moi, c'est une relation d'absolue confiance. Vous savez, c'est lorsque on se soumet à la volonté de quelqu'un, c'est vraiment ça.
Vous êtes dans ses mains?
Ah oui, totalement. Totalement. Donc, si vous voulez, quand les choses ne marchent pas très bien, je me dis, parce que j'ai tellement vu comment il fait, je veux dire, j'ai tellement appris à connaître la démarche de Dieu dans son procédé, disons, que lorsqu'il y a des choses qui sont terribles et qu'on se dit, mais mon Dieu, mais pourquoi? C'est sûrement pour quelque chose de mieux. Quand une porte se ferme, il y en a 10 qui s'ouvrent, et c'est vraiment les chemins de Dieu. Et quand j'ai des problèmes, je me dis, bon, ben, j'ai ce problème, ça fait rien. Parce que de toute façon, il y aura quelque chose de bien qui en sortira.
Ce qui fait dire à certains que vous êtes devenue mystique, pour d'autres, sainte, encore pour d'autres, un peu illuminée. Quand vous entendez ça, illuminée, Ingrid Bettencourt, aujourd'hui.
Illuminée, s'il me voyait à la maison, il verrait que je ne suis pas du tout illuminée.
Vous êtes quoi à la maison, Ingrid Bettencourt?
Je suis moi, sans maquillage, avec mes trucs, mes problèmes et mes machins. Non, je suis totalement normale. Non, illuminée, je ne suis pas. Mystique, non, parce que, vous savez, mon approche vers Dieu n'est pas du tout mystique. Je n'ai pas eu d'apparition, je n'ai pas eu de trucs comme ça. Elle est totalement rationnelle et presque intellectuelle. J'ai beaucoup de respect pour Dieu, mais en fait, c'est un truc très intime.
Très personnel.
Et je préférais que ça reste comme ça, mais le problème, c'est que bon, on m'en parle, donc je réponds.
Donc vous répondez. Ce qui tient peut-être du miracle, quand même, c'est votre santé. Vous avez l'air en forme, Ingrid Bettencourt.
Ouais, je suis très très en forme.
Et pourtant, on était très inquiets pour vous, et quand on avait vu des images de vous, des photos de vous, on se disait, comment elle va faire pour remonter la pente? Comment vous avez fait pour remonter la pente physiquement? Vous n'avez aujourd'hui aucune séquelle de ce qui vous est arrivé?
J'ai des petites séquelles, je vais avoir des interventions en janvier, parce qu'il y a des petites choses. Mais disons que par rapport au cadre médical que j'avais il y a un an exactement, c'est vrai que c'est un miracle.
Et vous allez sauver la vie certainement à beaucoup d'autres grâce à une fondation que vous lancez. C'est quoi l'objet de cette fondation, Ingrid Bettencourt?
Oui, alors cette fondation, en fait, son seul objet, c'est de me donner un instrument pour pouvoir être là pour les gens qui souffrent. Alors, ça a l'air tout bête, mais pour moi, c'est très très important, parce que je ne veux pas travailler dans les statistiques et dans l'abstrait. Je veux être là pour des gens qui véritablement ont besoin qu'on leur donne une main. Par exemple, pour Wilson Bueno Largo, alias Isas. Je ne veux plus l'appeler Isas, je veux l'appeler Wilson, parce que c'est la nouvelle vie.
Donc cet ex-guerrieros.
Ouais, cet ex-guerrieros qui était avec Isabelle, sa femme. Pour eux, je veux être là. Mais cette fondation, bon, alors, quand on parle un petit peu comme ça, plus en générique, c'est une fondation qui va promouvoir la culture de la paix, parce que là où il y a la guerre, les gens souffrent. Promouvoir une justice sociale, parce que là où il y a les inégalités, surtout économiques, il y a beaucoup de souffrance. Et qui va promouvoir également un développement soutenable et rationnel dans notre planète, parce que là où il y a des crises écologiques, l'homme souffre. Donc,
Êtes là pour ça.
Ouais, je veux être là.
Un petit mot, avant de parler de 2009 très rapidement, un petit mot sur les petites polémiques qui vous ont entouré quand même, parce que forcément vous faites aussi des déçus, notamment les comités de soutien qui vous ont soutenu pendant des années, qui disent elle nous a pas remercié. Il y a eu comme ça des polémiques qu'on a pu lire ici et là. Clara Horace qui vous aurait croisé à Deauville, à qui vous n'avez pas pu adresser la parole. Vous l'avez lu aussi forcément. Vous vous dites quoi? Que c'est la vie. Il y a forcément un revers de la médaille.
Je vais vous dire, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Je voudrais avoir des journées de 48 heures. Mmh. Déjà, avec le peu que je fais, et je sais qu'il y a beaucoup de gens que je voudrais embrasser, à qui je voudrais remercier, que je voudrais avec eux, être avec eux, je n'y arrive physiquement pas. C'est ça le problème. Je voudrais être là pour beaucoup plus de monde. Et
donc vous dites oui à beaucoup, et puis finalement vous ne pouvez pas toujours. Et vous faites déjà beaucoup, c'est ça que vous dites.
Oui, je pense que ça peut être aussi un défaut. Je dis oui à tout le monde parce que je ne voudrais pas dire non, je déteste dire non.
Vous rattrapez le temps perdu.
Pour les comités, ce que je voudrais transmettre à tous, je les ai eus, vous savez, il y a un mois, juste ici
à l'hôtel de ville.
Ouais, à l'hôtel de ville. Bon, j'ai réussi à leur dire combien je les aimais, combien je les remerciais, et à leur montrer le chemin que je veux parcourir avec eux dans le futur. Mais il n'y avait pas tout le monde, c'est ça. Et ceux qui ne pouvaient pas venir parce qu'il n'y avait pas le train, ou parce qu'ils travaillaient, etc., eh ben oui. Moi, je voudrais bien, et je leur avais dit que je voulais aller dans les régions les embrasser. Et puis je me rends compte que chaque fois, il faut que je reporte ça plus tard. Parce que l'année prochaine, il faut absolument que je fasse quelque chose qui est indispensable pour moi et pour ce que je pense que je dois faire pour les autres. C'est prendre une retraite physiquement, de m'isoler pour faire un exercice qui pour moi est difficile et douloureux. C'est celui d'écrire ce que j'ai vécu. Et je peux pas le faire dans le mouvement, je peux pas le faire dans l'exposition publique, je peux pas le faire comme je suis là, je peux pas. Il faut que je m'isole physiquement pour pouvoir, disons, donner naissance, parce que c'est comme un enfant. Mm-hmm. C'est beau, mais ça fait mal aussi. Donc,
Mais vous n'avez pas peur, Ingrid Betancourt, qu'en relâchant finalement ce rythme et en relâchant toutes ces obligations que vous avez, en vous retrouvant seule face à vous-même pour accoucher de ce récit, d'avoir très 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 mal et d'être peut-être d'avoir du mal à même à vous relever.
Marc-Olivier, la douleur, c'est ce qui fait grandir. Il ne faut pas avoir peur de la douleur. Et même, il ne faut pas avoir peur du tout. La peur, on l'a évidemment, puisqu'on ne peut pas s'en défaire de la peur, mais il faut la mettre de côté et continuer à regarder de l'avant. Il ne faut pas se laisser manipuler par la peur. Parce que c'est elle qui nous bloque. Et il faut toujours penser que même le plus dramatique de ce qui peut nous arriver dans la vie, qui est peut-être la mort, c'est ce que nous redoutons tous le plus, ben même la mort est belle. Et elle nous ouvre un horizon nouveau. C'est une autre vie qui commence. Donc il ne faut même pas avoir peur.
Et ça, vous l'avez appris en détention dans la jungle, ou vous le saviez avant, Ingrid Betancourt?
Non, je l'ai appris dans la jungle. Parce que j'ai vu la mort de très très près. Et puis je me suis rendu compte qu'à un certain moment, pour moi, la mort devenait une libération.
Pour terminer, Ingrid Betancourt, on vous souhaite quoi pour 2009?
Écoutez, souhaitez-moi de voir ceux qui sont dans la jungle revenir vivants et libres. Ça sera le plus beau cadeau.
On vous le souhaite vraiment. Et le 31 décembre, vous allez le fêter avec Lorenzo et Mélanie.
Oui, et avec ma maman.
Vous les embrassez
pour
nous?
Oui, oui, merci. Merci pour tout. Je sais que vous avez été tout le temps pour eux, prêts. Et je m'excuse de vous avoir fait attendre. Marc-Olivier.
C'était très bien de vous rencontrer, Ingrid Betancourt.
Pour moi aussi.
Enfin, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.